les jardinières.
On démarre le week-end au potager, soyez les bienvenus chez les jardinières. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Olivier Ribaud est notre invité jusqu'à 8h. Bonjour Olivier.
Bonjour Mylène, bonjour Brian.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. Merci d'être avec nous ce matin.
Et bon réveil à toutes et à tous, c'est parti pour le jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes le 17 février et c'est la Saint-Sylvain aujourd'hui. Un dicton nous dit qu'à la Saint-Sylvain, froid ou chaud, met les derniers arbres dans le trou. Alors Olivier, est-ce que ce dicton dit juste, il est temps de planter nos derniers arbres ?
Alors le dicton, je ne sais pas où tu vas toujours les chercher, mais c'est vrai que... Le mot est juste, le dicton est aussi très juste, on le dit assez souvent, il faut planter ces arbres et puis c'est un petit peu le dernier des moments parce que tout ce qu'on va mettre en terre, en racines ou même en mottes, mais ces arbres n'ont pas de feuilles, donc ne sont pas partis en végétation encore, donc c'est vraiment la dernière période, on peut encore dire, on a encore quand même jusqu'à fin février, début mars pour planter tout ce qui sera racines nues, donc c'est ce qui sera le plus précis pour ton dicton d'aujourd'hui, c'est ces arbres qu'on va soit transplanter, soit ces plantes vivaces qu'on va arracher puis replanter ou on va diviser. Hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un, on a divisé un pied de rhubarbe par exemple. C'est vrai que c'est vraiment les moments pour faire ce genre de choses. On arrive vraiment en fin de période pour le faire parce que ces plantes n'ont encore pas démarré, n'ont encore pas fait de feuilles, mais on voit bien que les bourgeons commencent vraiment à se gonfler et puis commencent à se préparer pour cette saison de printemps. Donc, pour pouvoir faire un nouveau système racinaire à ces nouvelles plantes, et bien sûr, il faut les mettre en terre le plus vite possible pour qu'elles aient le temps de se développer sous le sol avant de faire des feuilles.
Et merci Olivier, vous êtes là aussi pour répondre aux questions de nos auditeurs et toujours trois possibilités pour nous joindre, soit par téléphone au 0900 70 20 20. Vous avez aussi le choix du SMS en tapant jardin, un espace et la question, puis il suffit d'envoyer le message au 939 ou alors via le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions jardinières. Vous aurez l'occasion de joindre une photo à votre question.
Dans la suite des jardinières, nous allons parler de rosiers, des différentes variétés et bien sûr de leur entretien. On se retrouve juste après cette pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous allons mettre les rosiers à l'honneur. Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et vous allez nous donner des conseils pour entretenir cette plante. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de rosiers ? Parce qu'il y a des variétés, mais il y a des types aussi, ou des espèces.
Ah oui, tout à fait, il y a des types ou des espèces, on peut les considérer un petit peu la même chose. C'est vrai que quand on parle de roses, on voit tout de suite les belles roses qu'on a vues ces derniers jours à l'occasion de la dernière fête de la Saint-Valentin. Mais il faut savoir que dans nos jardins, on a plusieurs types de rosiers. Donc on a trois grands types de rosiers, mais je vais mettre même quatre grands types de rosiers qui sont différents. Donc on a le rosier avec les grandes fleurs, c'est la grande partie des rosiers. Donc c'est ce rosier où c'est qu'on a une tige et une grande fleur qui vient dominer cette tige. Après, on a le groupe des rosiers, moi je dirais, on va appeler ça floribunda, donc c'est la rose où c'est qu'on a une grappe de petites fleurs, moyennes fleurs qui vient dominer l'extrémité de la tige, donc du rameau du rosier. Et puis après, on a le troisième groupe, et bien c'est le groupe des rosiers miniatures ou rosiers couvre-sol ou rosiers buisson. Alors là, ça pourrait être encore divisé en plusieurs parties dans ce troisième groupe. Et puis après, vous avez encore le quatrième groupe de rosiers, qui est un petit peu plus connu, mais c'est aussi un groupe qui est bien défini, puis bien différent des autres, c'est les rosiers grimpants. Et de nouveau, dans les rosiers grimpants, on a aussi des sous-groupes où c'est qu'on va les nouveau les catégoriser différemment.
Puis, la rose, elle est souvent considérée comme la reine des fleurs. Elle est délicate, belle, mais est-ce que c'est une plante résistante ?
Alors oui, on l'associe souvent à la reine des fleurs parce que ben c'est une des plus anciennes fleurs, je dirais, en fleurs coupées. C'était principalement la fleur qui était cultivée le plus depuis très 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 longtemps. On l'a associée à différentes fêtes, donc on l'a vue à la Saint-Valentin, on la revoit à la fête des mères, on la voit souvent à l'occasion aussi de décès, de deuil. Donc c'est une fleur qui est associée à beaucoup beaucoup de fêtes, donc automatiquement c'est une fleur qui est très connue. Mais c'est aussi une fleur qui a été beaucoup beaucoup modifiée. sans vouloir parler trop profondément de sa modification, c'est fait assez simplement. Donc il faut savoir que on va prendre des graines sur une rose, on va polliniser une autre rose et puis on va avec le temps avoir une nouvelle couleur. Il faut savoir que les rosiéristes, donc c'est des métiers qui sont bien précis, mettent des années et des années pour découvrir une nouvelle variété de rose. Si je prends une Baccara, qui est vraiment le nom le plus connu, cette rose a été modifiée, a été sélectionnée pendant des années et des années, pour en arriver au jour d'aujourd'hui à avoir cette rose rouge qui est toujours remis à jour pour être sûr d'avoir toujours cette qualité de rose. Alors ça, c'est vraiment dans les rosiéristes, donc dans vraiment la profession du rosiériste qui va sélectionner ça. Et ça met du temps. Et après, il y a des réserves qui sont des protections qui sont mises sur ces cultivars et sur ces variétés différentes.
Alors, Olivier, vous nous l'avez dit, hein, il existe plusieurs types de rosiers, grandes fleurs en grappe, couvre-sol, des rosiers grimpants. Cette plante est résistante. Alors, on en aimerait une à la maison, mais de quoi il faut tenir compte si on veut un rosier chez soi ?
Alors justement, ça devient très très complexe parce que c'est tellement grand l'assortiment des rosiers que vous ouvrez une petite brochure, il y en a tellement de couleurs différentes, tellement de sortes différentes, on se perd beaucoup. Même nous, en tant que professionnels, on a nos rosiéristes qui nous fournissent des nouvelles variétés assez souvent, donc on fait aussi un petit peu nos tests, on essaie de chercher. Mais il faut déjà, avant de savoir qu'est-ce qu'on va planter comme rosier chez soi, c'est de savoir dans quel endroit ou quel site, quel genre de jardin on va les planter, parce qu'on va planter une rosier à grandes fleurs à un endroit où c'est qu'on aura de la place, où la plate-bande pourra s'épanouir. Contrairement, si on va planter des rosiers couvre-sol, par exemple, on va mettre ça dans des petites plates-bandes, dans des situations où c'est que le sol est un petit peu moins bon, c'est que c'est un petit peu plus séchard, et où elles vont très bien se développer. Donc il faut savoir que la rose, la principale rose, que, comme je disais avant, qui fait vraiment une belle grande fleur, c'est une plante qui est très gourmande et très délicate. Donc si on va voir un peu ça après, c'est une plante qu'il faut vraiment mettre dans des conditions idéales. Par contre, les autres rosiers, on va les planter des fois dans des parties de jardin un petit peu différentes où c'est qu'on a moins de soins à leur donner. Puis après, bien sûr, savoir aussi si on veut planter un rosier grimpant, c'est de nouveau différent. On va le mettre là où on aura la place de le faire grimper sur un support ou autre. Donc le choix de choisir son bon rosier, c'est déjà ça, c'est de savoir dans quel groupe on va partir. Et puis après, on va encore justement sélectionner dans ce groupe de nouveau des couleurs ou des croissances de roses qui vont être différentes. Parce que si je prends dans le groupe des rosiers buissons, qui fait partie des rosiers grimpants, donc on a vraiment une partie de plantes qui est complètement différente de rosiers à grandes fleurs. Vous avez dans le rosier buisson la rose anglaise, qui est une rose où c'est que vous avez au final, quand elle fleurit, une sorte de fleur qui est vraiment particulière, très parfumée, qui est très très belle et qui demande très peu d'entretien.
Et avant de parler plus en détail de l'entretien du rosier, dites-nous Olivier, c'est la bonne saison, le printemps, pour planter un rosier ?
Oui, alors on en revient un petit peu sur notre question de départ, c'est qu'on est vraiment dans une période maintenant idéale pour mettre en terre beaucoup de choses, donc on peut planter beaucoup de choses, notamment ces rosiers, on peut les planter, on les trouve déjà gentiment dans les commerces. Pour les plus assidus, on peut encore planter des rosiers en racines nues, c'est un petit peu plus difficile à trouver encore à l'heure actuelle, parce qu'on a standardisé le rosier à le mettre dans un pot, qu'on puisse l'acheter un petit peu dans toute la période de printemps, même jusque assez tard dans le printemps début d'été. Donc oui, plus vite le rosier sera mis en terre, plus vite il va faire un système racinaire nouveau, donc il va s'ancrer, il va pouvoir puiser ce qu'il a besoin dans le sol, et puis vous aurez une floraison qui sera beaucoup plus belle durant cet été déjà, avant d'attendre l'année prochaine. Alors ça, c'est pour le rosier, mais c'est aussi pour les petits fruitiers, les framboisiers, les choses comme ça. C'est vraiment maintenant mi-février, en plus on a une période où c'est que la température est très très idéale pour le faire, donc on voit bien que les bourgeons bougent, donc si on regarde les rosiers, on voit déjà qu'ils bourgeonnent, donc c'est vraiment une très belle période pour planter ces rosiers.
Alors, il est temps de dégoter des rosiers pour les planter ce week-end. Merci Olivier. On va aussi parler de l'entretien de ces rosiers, ça sera dans un instant.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy. Ce matin, nous parlons de rosiers. Si les roses sont de magnifiques fleurs, c'est grâce certainement à un bon entretien. Olivier, on dit que le rosier a besoin d'être taillé souvent. Info, intox ?
Bonne question. Non, c'est pas faux. C'est vraiment une raison pour laquelle, comme tu l'as dit, pour avoir vraiment un beau rosier, faut vraiment s'en occuper. Donc, il y a des tailles et c'est des tailles qui sont bien précises. Alors, c'est clair que je vais commencer par la taille d'automne. Quand on a fini la période avant l'hiver, on va juste couper les anciennes hampes florales. On va les égaliser à une certaine hauteur. Ça, c'est pour les préparer pour l'hiver. On va faire ça aussi pour éliminer justement les vieilles fleurs qui pourrait rester, parce que c'est jamais trop bon, parce que ça va développer tout de suite pas mal de maladies qui vont rester après pour le rosier l'année suivante. Donc on va vraiment les tailler à une certaine hauteur, on va les protéger, on va les nourrir pour la période d'hiver. Après, au printemps, le rosier va être de nouveau taillé. Alors c'est là que c'est compliqué, parce que les quatre catégories de rosiers que j'ai décrits, on va les tailler différemment. Donc c'est là qu'il faut un petit peu se renseigner, chercher, un peu potasser. Parce qu'un rosier, moi si je prends la base du rosier à grande fleur qui est connue, qu'on entendait toujours, il faut le couper sur 3 yeux. Donc ça fait toujours bizarre d'aller couper un rosier à 8 à 10 cm maximum du ras du sol, donc de son collet de greffe. Alors c'est de là que les futures branches vont repousser et vont donner une forte branche pour avoir une belle grande fleur pendant la saison d'été. Ben, si on les coupe pas assez court, on va pas descendre assez près du collet de greffe, donc la tige va pousser beaucoup moins et puis la fleur sera beaucoup plus petite. Donc on va se dire, ouais, ben par rapport à la photo que j'ai vue sur le catalogue quand je l'ai acheté ou ce qu'elle était sur le pot, on va toujours être déçu. Donc c'est une taille qui est très particulière, il faut vraiment être très 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 sévère pour tailler. Après, si on prend d'autres exemples de rosiers Florimonda, pardon, donc qui fait des plusieurs fleurs, on peut être un peu moins sévère en taille. Quand on prend la taille du rosier grimpant, alors là c'est vraiment aussi très très particulier, parce qu'il faut choisir des rameaux pour les palisser sur sa barrière ou son support. Depuis ce rameau, il faut aussi laisser de nouveau 2 ou 3 yeux pour refaire une branche à fleurs. Donc c'est oralement, c'est très compliqué d'expliquer comment on taille un rosier. C'est pour ceux qui ont déjà eu l'occasion, c'est faisable, mais c'est aussi beaucoup une observation. Donc c'est à force d'en faire, à force de chercher, on arrive après à maîtriser cette taille qui peut être faite par tout le monde, mais qu'il faut vraiment essayer d'être assez strict comment on va la faire.
Merci beaucoup Olivier. On vous propose de continuer de parler des rosiers et de leur entretien juste après la pause musicale, météo et inforoute.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. Vous êtes notre invité jusqu'à 8h. Vous allez répondre aux questions de nos auditeurs, mais aussi encore un peu parler de rosiers.
Et pour poser vos questions à Olivier, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 pour 32 centimes la minute. Vous pourrez aussi parler en direct avec notre pépiniériste. Et vous pouvez remplir le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions, questions ou jardinières et joindre une photo à votre question. Ou troisième possibilité, simplement nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom. Et vous nous envoyez ce SMS au 939.
Olivier, avant la pause musicale météo inforoute, vous nous avez parlé de la taille des rosiers. Comme il y a beaucoup de rosiers, il y a beaucoup de tailles différentes pour le faire. Et puis bien sûr, on peut toujours faire appel à un professionnel comme vous pour les bons conseils et pour nous aiguiller pour faire tout juste. Mais par contre, Olivier, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on ne taille pas son rosier ?
Alors ça, c'est aussi une chose qui est très importante à savoir. Si on ne taille pas un rosier, alors il ne va pas mourir, donc ça c'est sûr. Il va grandir différemment. Ça veut dire qu'il va continuer toujours de pousser en hauteur, en largeur. Il va peut-être se casser naturellement. Donc ça va ça va automatiquement continuer de pousser. Mais vous aurez après un buisson qui aura du sec par-dedans, il aura des branches mortes, parce qu'il faut savoir que quand on taille, on parle de lui donner une forme et puis de reproduire des branches, mais on doit aussi faire attention à deux choses quand on taille un rosier, qui est aussi tout important que de lui donner cette force à refaire des nouvelles pousses. C'est la première chose, c'est d'éliminer toutes les branches sèches, parce qu'un rosier, pendant sa saison, eh bien, il va avoir des rameaux qui vont sécher, il a carrément des tiges qui vont dépérir et vont sécher. Ça, c'est normal. Il faut savoir qu'un rosier, c'est quand même une plante qui est entre le ligneux et l'herbacé. Ça veut dire qu'au début, eh bien, ça pousse, ça vient tendre. Et puis après, en fin de saison, ces branches viennent un peu plus dures. Mais elles peuvent aussi sécher. Donc, à la taille, on doit éliminer ça. Et puis après, il y a un point très, très, très important qui va se produire sur tout type de rosier, que ce soit n'importe lesquels, en grimpant, en couvre-sol ou les rosiers à grandes fleurs. Quand on taille ou pendant la saison, mais surtout à la taille, il faut faire très attention de contrôler, d'enlever ce qu'on va appeler les gourmands. Ça veut dire qu'un rosier, on sait qu'ils sont tous greffés. Il y a un collet de greffe, on voit très bien un moignon, une petite boule où c'est que le rosier a été greffé sur un porte-greffe sauvage. Alors on doit faire attention justement d'éliminer tous ces rameaux qui peuvent revenir depuis en dessous du porte-greffe. Donc c'est le sauvageon qui va repousser. Et c'est surtout sur ça que je vais insister, que si on taille pas un rosier et puis qu'il y a quelques sauvageons qui vont reprendre, eh bien ces sauvageons, ces rejets qui partent en dessous de la greffe, qui vont prendre le dessus et qui vont faire sécher le beau rosier que vous aurez acheté dans une pépinière pour avoir de belles fleurs. Et puis après, vous aurez un églantier, vous aurez un rosier avec des grosses épines qui va venir très volumineux, qui va faire des petits cénorhodons, qui ne ressemblera plus du tout au rosier que vous avez acheté au départ. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important à faire, c'est de surveiller ces petites tiges qui ressortent. On voit souvent, elles ont une couleur différente, elles ont une forme complètement différente du rosier, et c'est ça qu'il faut vraiment aller chercher très profondément pour les éliminer.
Et puis justement, parce que le porte-greffe, c'est souvent pas la même variété que le greffon, c'est juste, hein, pour qu'on comprenne, voilà.
Voilà, exactement. Alors c'est pour ça qu'on voit très bien, là, des fois en été, on les reconnaît avec les feuilles sont différentes, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même forme, donc on peut aussi éliminer ce rejet pendant la période d'été, sans le laisser pousser, pour affaiblir notre beau rosier qu'on avait planté. Et si, je reviens sur ta question, s'il n'est pas enlevé, bien bon, au final, eh bien, le rosier va mourir, parce que c'est le porte-greffe qui va prendre le dessus.
Et Olivier, on va parler maintenant un peu arrosage de nos rosiers. Est-ce qu'ils sont gourmands en eau, ces rosiers ?
Alors c'est un petit peu une question comme au départ, ça dépendra le choix de ce qu'on aura fait au départ comme rosier. Si je prends le rosier couvre-sol par exemple, c'est un rosier qui est pas très gourmand en eau. On va le planter dans des situations sèches, arides, on va le planter dans des bords de route, dans des plates-bandes. On le voit de plus en plus sur les bords de chemin urbains, dans les ronds-points. On plante beaucoup de rosiers couvre-sol parce que c'est un rosier qui demande très peu d'eau. Il fait beaucoup, beaucoup de multitudes de petites fleurs. C'est très florifère, ça fleurit sur toute la période d'été. Et c'est un rosier qui supporte bien les sécheresses qu'on a maintenant. Au contraire qu'un rosier à grandes fleurs qui a besoin d'un bon sol profond, c'est là qu'on va faire le choix quand on va planter son rosier. Mais on peut pas dire que c'est gourmand en eau. Et en plus, s'il est trop humide ou trop souvent de la pluie, les rosiers sont des plantes qui sont facilement attaquées par tout ce qui est maladie cryptogamique, donc tout ce qui est champignons, les feuilles viennent tachées, viennent malades. Donc c'est vraiment une plante qui est un peu délicate, mais si on choisit la bonne variété et puis le bon emplacement, on va déjà aider fortement à avoir un bon résultat.
Vous avez parlé là vite fait des maladies. Souvent sur les rosiers, on voit des pucerons. Est-ce que vous avez des astuces pour éviter ce problème?
Alors, il faut savoir que le rosier, oui, c'est une plante qui est très malade, qui est facilement attaquée. Donc, si la plante est faible, je reviens toujours sur mes sols, si la plante est faible, elle sera encore plus malade. Ça, c'est comparable à tout ce qui est humain, tout ce qui est végétal. Si une plante, elle est pas dans une bonne situation, elle sera plus facilement attaquée. Il faut savoir que dans des cultures de vignes, par exemple, on le voit des fois quand on descend le long des autoroutes, on voit toutes ces rangées de vignes. Au bout de la rangée de vignes, il y a un rosier, on le voit aussi en Bourgogne. Ce rosier, il a une utilité c'est cette plante qu'on va aller observer régulièrement pour voir s'il y a la maladie qui est en train de s'installer dans la vigne. Elle va commencer par se poser sur le rosier. Donc, si on regarde le rosier qui est malade, on sait qu'il faudra attaquer ou combattre une maladie dans la vigne. Donc, c'est une plante qui est sensible en sachant qu'on a des moyens pour combattre maintenant certaines maladies, certains pucerons, mais il faut aussi commencer d'être réaliste. Il y a des seuils de tolérance. Les pucerons, c'est des durées de vie qui sont très courtes, donc on en a tout le temps au printemps, ça c'est normal, en sachant qu'on peut être tolérant, de les accepter sur une petite période. Ils vont faire quelques petits dégâts, mais après, quand le climat revient chaud, sec, ces pucerons vont disparaître naturellement. Donc il y a un petit peu de réflexion à faire, un petit peu d'orientation maintenant sur les clients, de faire attention de ne pas systématiquement, quand on a vu deux pucerons sortir sa boy et puis commencer de tout gicler. Il y a des choses qu'on peut faire, on peut trouver des petits parasites naturels, donc là il y a vraiment de quoi se renseigner dans les commerces pour être au plus juste, pour avoir les meilleures manières pour combattre ces pucerons.
Merci beaucoup Olivier pour vos précieux conseils. On se retrouve pour la suite des jardinières dans quelques minutes et vous prendrez le temps de répondre aux questions jardinage de nos auditeurs.
7h, 8h, les jardinières.
7h46 chez les jardinières, nous allons répondre aux questions jardinage que vous nous avez déjà envoyées. Et si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous pouvez nous les faire parvenir avec trois possibilités, Brian.
Exactement, la première c'est par téléphone au 0900 1 70 20 20. Vous nous appelez et vous aurez la chance de parler en direct avec notre spécialiste. Deuxième possibilité, les formulaires disponibles sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Vous aurez cette fois la possibilité de joindre une photo à votre question. Et puis troisième et dernière possibilité par SMS, vous tapez jardin un espace et votre question, vous terminez par votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
On a reçu justement une photo de Lorraine de Cressier qui nous dit « Bonjour, j'ai vu ces pots de jacinthe, on va dire que ça se prononce comme ça, en vente et j'ai bien envie de les acheter. Est-ce que c'est le bon moment pour les planter ?» Et elle vous demande aussi, Olivier, si je les mets dans mon jardin, est-ce qu'elle doit les séparer ou les laisser comme ça? Je peux direct les mettre dehors. Alors, elle nous a envoyé une photo de ce petit pot de jacinthe où on voit trois oignons. C'est juste.
Tout à fait. Il y a trois oignons qui ont été mis en pot, donc ils ont été déjà pré-cultivés, on appellera ça. Ils ont été mis dans ce pot à l'automne et ils ont déjà fait une petite pousse. Alors oui, c'est une bonne période pour planter ce genre de choses, parce que si elle avait voulu planter que l'oignon, il aurait fallu le planter avant l'hiver. Mais maintenant, ces jacinthes sont déjà un petit peu en croissance, donc oui, il faut mettre ça en terre. On peut les mettre à l'extérieur directement et puis il faut les laisser les trois ensemble. Il ne faut pas les diviser parce qu'ils ont déjà fait, la personne verra en enlevant le pot en plastique qui est autour, elle verra qu'il y a tout un système racinaire blanc qui est déjà bien développé. Donc il faut les mettre en terre ensemble et puis continuer de les arroser. Il faut savoir que tout ce qui est bulbe, tout ce qui est jacinthe, tout ce qui est tulipe, tout ce qui est jonquille, quand vous achetez ce genre de choses dans le commerce, ils n'ont pas une très grande longueur de tige et on voit des fois déjà le bouton qui est à l'intérieur. Et ça, c'est une manière qu'on cultive, nous, les bulbes. On va les laisser un petit peu avoir soif, je dirais. On ne va pas trop les arroser parce que sinon, ils vont venir beaucoup très vite, trop long. Donc cette personne, quand elle aura planté ça en pleine terre, il faut vraiment l'arroser abondamment pour que cette tige de jacinthe puisse monter, donc puisse grandir assez rapidement pour que sa fleur soit assez grande dessus. Parce que ça arrive souvent qu'on les plante, on les arrose juste un peu et puis on a une toute petite fleur de jacinthe ou de jonquille qui vient pas très haute. Donc ça, c'est juste un manque d'humidité après la plantation.
Merci beaucoup Olivier. On va passer à une autre question qui nous vient cette fois de Tavane, Sébastien de Tavane, qui nous dit « Bonjour, j'ai une haie au fond du jardin sur environ 10 mètres de long, c'est du laurier. On aimerait la retirer et remplacer par des fruitiers. Tout d'abord, comment faire pour retirer la haie facilement et tous les arbres ? Et quel fruitier choisir ? Merci beaucoup. »
Alors, éliminer une haie de laurier, oui, c'est faisable. Donc, couper beaucoup d'huile de coude parce que c'est une plante qui a un fort système racinaire. Donc, c'est pas facile à arracher. Mais bon, après, il y a des moyens différents, mécaniques ou autres. Donc, arracher. Et puis après, pour replanter une sorte de fruitier, ça va être une question d'emplacement, une question de grandeur. Ça dépend de la place qu'il y a parce que ça pourrait être fait avec une rangée d'arbres nains, avec une rangée d'arbres en espalier, où ça peut être que 3-4 arbres en demi-tige qui vont faire un parvu sur le voisinage ou sur la vue d'après. Ça, c'est un petit peu à voir sur place. C'est un petit peu un conseil à prendre avec quelqu'un sur le lieu même de la plantation. Mais remettre des fruitiers à la place de ces lauriers, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste une question de voir l'emplacement et puis les expositions qu'il y a et le choix de ce qu'ils veulent planter. Si c'est plutôt du pommier, du noyau, ça sera un choix personnel par rapport au client.
Et toujours faire appel à vous, les professionnels qui êtes là pour renseigner. On va passer à une question sur les bonsaïs, une question de Denzia de Neuchâtel qui nous dit « Bonjour, j'ai un bonsaï et depuis quelques semaines, il pousse un peu dans tous les sens. » Et elle est plutôt contente, Denzia, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas la main verte. Elle aimerait qu'il continue à aller bien. Elle vous demande conseil. Est-ce qu'il faut le tailler? Quelle terre? Quel terreau? Et elle vous remercie, Olivier. On a reçu une photo de ce petit bonsaï. Et c'est vrai qu'il y a une tige qui monte.
Oui, alors c'est un petit bonsaï qui a été acheté dans le commerce, qu'on trouve maintenant assez régulièrement. Il faut savoir que c'est un bonsaï qu'elle a gardé à l'intérieur parce que c'est bien précisé, c'est un bonsaï d'intérieur. C'est une variété de ficus qu'on peut garder parce que si elle le met à l'extérieur, il va geler. C'est pas une plante d'extérieur pour la région de chez nous. Donc maintenant, elle l'a mis à l'intérieur. Sur sa petite photo, on voit juste à l'arrière qu'il y a le radiateur qui est pas très loin. Donc, on voit très bien que cette plante s'est mise en végétation. Elle a commencé de pousser depuis maintenant Noël. Elle fait des tiges, elle fait des feuilles qui sont vertes claires, qui n'ont pas la même couleur que le reste de la plante. Donc c'est vraiment qu'elle est en végétation. Le manque de lumière fait que cette plante ne verdit pas assez, elle ne fait pas assez de chlorophylle. Donc c'est une plante qui a été mise en végétation trop tôt. C'est qu'elle l'a mise dans une pièce trop chaude. Il aurait fallu la garder dans une pièce fraîche, hors gel, mais 4, 5, 10 degrés maximum, et elle n'aurait pas fait ses tiges. Maintenant, elles sont là, donc on va faire avec. Il faut, comme elle dit, il faut les tailler. Il faut qu'elle fasse attention de ne pas trop l'arroser, parce que sinon, cette plante, elle va continuer de pousser. Donc, on va limiter l'arrosage, et elle va couper ses tiges, et puis elle va essayer de diminuer la température. Donc, en déplaçant cette plante dans une ou pièce plus fraîche, pas le faire trop drastiquement, il faudrait le faire en plusieurs étapes, parce que si c'est la passer de 22-23 degrés d'une pièce normale à une pièce à 5-10 degrés, là on aura un autre problème, elle va perdre ses feuilles parce qu'elle aura un choc thermique, donc il faut la rapprendre à avoir une ambiance plus fraîche. Et puis après, cette plante n'est pas nécessaire d'être rempotée, parce que c'est un petit bonsaï dans un petit pot, mais c'est son environnement climatique qui n'a pas été bon et mal géré jusqu'à maintenant. Et ça, elle peut le récupérer avec du temps en revenant sur une période plus fraîche.
Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouve dans un instant pour la fin des jardinières.
Les jardinières.
Le temps file, il est déjà presque l'heure de vous libérer, Olivier. Mais avant de vous laisser partir, ce matin, en première partie d'émission, on a parlé de rosiers. On aurait aimé savoir, parmi toutes les variétés de rosiers, Olivier, si vous ne deviez en choisir qu'une, ou qu'un plutôt, ou qu'un rosier et qu'une variété, ça serait laquelle et pourquoi ?
Alors, je vais faire court parce qu'on me dit que je dois un petit peu raccourcir mes discussions. Déjà, ça ne sera pas que un, ça sera déjà deux. J'arriverai, par rapport à mon métier, j'arrive pas à faire qu'un choix sur une plante parce qu'il y en a trop et c'est des plantes qui me passionnent beaucoup. Donc je vais faire deux choix, je vais partir sur un rosier anglais. Donc c'est un rosier qui fait une grande fleur et qui est très très parfumé et je vais donner sa variété, c'est la variété Belvédère. Pour ceux qui ont l'occasion une fois de trouver cette variété qui est assez difficile à retrouver, c'est une rose saumonée qui est parfumée très très fortement, donc est très belle. Et puis après j'aurai encore une autre variété de rosier couvre-sol qu'on peut mettre en pot, qu'on peut mettre dans des bordures, on peut mettre ça sur son balcon, on peut mettre partout. Et il sera peut-être plus facile à retenir, c'est la variété aspirine blanc, aspirine rose, excusez-moi. Ça veut dire qu'il est rose quand il est en bouton, puis quand il est tout ouvert, il est d'un blanc immaculé. Il est vraiment un beau blanc, et c'est un rosier qui commence de fleurir à mi-mai, fin mai, et vous avez quasi des fleurs jusqu'à l'automne. Donc c'est vraiment un rosier qui est magnifique et qui est très très facile. Donc un rosier couvre-sol aspirine rose.
Merci beaucoup Olivier, on rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. On vous dit à très bientôt chez Les Jardinières et bon week-end.
Eh bien merci à vous et bon week-end, à très bientôt.
Merci Olivier, Les Jardinières vous donne donc rendez-vous samedi prochain dès 7h et nous serons en compagnie de Laurent Dubier, horticulteur à Neuchâtel. Bon week-end Brian.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, Les Jardinières.